Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Bonjour amis auditeurs et bienvenue dans cette nouvelle chronique. Aujourd'hui, nous parlons adaptation des agriculteurs au réchauffement climatique avec Nathanaël Coste, auteur du film La théorie du boxeur. Bonjour Nathanaël Coste.
Bonsoir.
Nathanaël Coste, vous allez nous parler de La théorie du boxeur, qui est un film qui va être projeté, qui est votre film. Mais d'abord, peut-être pouvez-vous vous présenter, Nathanaël Coste?
Alors, me présenter, ben là je réalise des films en ce moment avec une association qui s'appelle Kamehameha, et moi j'ai fait des études de géographie au début des années 2000, et depuis ben, j'ai travaillé dans la gestion de l'eau et l'irrigation notamment, et c'est un petit peu en lien avec le film que j'ai fait. Alors j'avais fait un précédent film il y a 10 ans qui s'appelait Enquête de sens, qui est plus un road trip initiatique que j'ai fait avec un ami d'enfance, et là cette fois on est sur un sujet plus terre à terre, qui est plus de regarder comment l'agriculture et l'alimentation peuvent s'adapter au dérèglement climatique, en essayant de regarder cette question dans la vallée de la Drôme où je vis, et en essayant aussi de dézoomer pour avoir une réflexion plus systémique en fait sur cette question.
Alors, vous parlez de la théorie du boxeur, c'est très percutant comme titre.
Le film s'appelle La théorie du boxeur parce que ouais, on a envie d'interpeller les spectateurs. Et on cherche des titres à qui on peut donner un sens. Et il se trouve que ça, c'est une image qu'a trouvé un forestier pour décrire le dépérissement des forêts en France. Et en disant qu'en fait, parce qu'on constate qu'en fait, beaucoup de forêts dépérissent là, sur les 10 dernières années, de façon un peu rapide. Et en fait, ça vient montrer que c'est l'effet d'une accumulation de coups, comme un boxeur, qui fait qu'à un moment donné, l'écosystème décroche, et c'est pas juste une année sèche qui va griller une forêt, c'est parce qu'il y a une accumulation d'années sèches et chaudes qu'au bout d'un moment l'écosystème s'affaisse.
Donc c'est une sorte de chaos debout.
C'est une sorte de chaos debout, ouais. C'est ce qu'on voit dans beaucoup de forêts, dans l'Est, dans le Sud. C'est un phénomène qui est assez marquant aujourd'hui, qui rend les forestiers très inquiets.
Et donc années sèches, années chaudes, c'était un peu le contexte de votre film, puisque vous avez démarré par une année humide, me semble-t-il, en Drôme.
Moi, j'ai commencé à filmer tout au début en 2021, donc on n'a pas grand-chose à raconter. Et puis, il se trouve que le projet de film s'est vraiment déroulé pendant tout l'été 2022, où là, effectivement, donc dans la vallée de la Drôme où je vis, là, donc entre un peu au sud de Valence, au sud du Vercors, on a eu, comme dans toute la France, une sécheresse absolument historique, qu'on avait déjà vue, mais pas depuis longtemps, et peut-être pas aussi tôt dans l'année, avec des vagues de chaleur et une sécheresse assez longue qui s'est étalée déjà sur l'hiver d'avant. Donc ça a cumulé, on va dire, chaleur et sécheresse, et effectivement, ça a posé de très très gros problèmes, en tout cas sur la ressource en eau, les écosystèmes, les élevages. Donc j'ai pu documenter tout ça.
Donc vous êtes allé interviewer ceux qui étaient les premiers protagonistes et peut-être les premières victimes, les agriculteurs?
Oui, bien sûr. Moi, j'avais envie de leur tendre le micro au départ pour voir comment est-ce qu'ils arrivaient à se débrouiller avec ça. Ça faisait déjà une dizaine d'années, moi, que j'habitais sur ce territoire-là et que je voyais en fait que ça posait pas mal de soucis, en fait, ce dérèglement climatique. Je voulais savoir un peu comment les fermes étaient déjà en train de s'adapter, qu'est-ce qu'ils mettaient en œuvre et quelles questions ils se posaient.
Oui, j'ai parlé de victimes, c'est pas forcément le terme.
Eux vont pas se considérer comme des victimes, je pense, parce que c'est leur métier de s'adapter à des conditions changeantes. Maintenant, ils sont vraiment aux premières loges et en fait, avec des phénomènes très durs, très extrêmes, qui peuvent quand même ruiner une culture ou ruiner une exploitation, il y a quand même des questions qui se posaient pas pareil jusque-là, quoi.
Est-ce que vous avez un cas concret ?
Ben, il y en a plein dans le film, des cas concrets. Ouais, il y a des cas, il y a des gens qui ont eu, pour prendre une catastrophe auquel on pense pas forcément, mais qui a touché toute la France ou quasi. Donc le 4 avril 2021, le plus grand gel, là, une gelée tardive, qui était la plus grosse catastrophe agricole en France depuis l'après-guerre. Serge Zaka, la agroclimatologue, dit que ça avait, je le cite, il dit que ça a coûté 4 milliards d'euros de dégâts. Cette catastrophe-là, et donc ça a grillé beaucoup de vignes, mais quasiment la totalité des vergers du sud de la France, du centre également, de l'ouest aussi. Et du coup, on a eu de très très fortes... on a eu des exploitations qui étaient... Si vous faisiez que du fruit, vous avez perdu 100% de vos fruits, bah, comment vous faites? Donc là, c'est l'État qui a un petit peu abondé, qui est arrivé sur des calamités agricoles, qui est un système qui est aujourd'hui remis en question. Donc...
Alors, ce que vous venez de dire, c'est que ça interroge peut-être la diversité de l'agriculture.
Ça interroge plein de trucs. Si on regarde un phénomène comme ça, ça interroge beaucoup de choses parce que, en fait, ces gels-là, ces gelées ont toujours existé. Par contre, ce qui n'était pas le cas avant, c'est qu'on n'est pas des hivers aussi doux. Donc maintenant, les arbres repartent beaucoup plus tôt. Donc ça pose la question de... Ok, donc si c'est ça, maintenant les hivers, on a des hivers beaucoup plus doux, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir planter? Et donc c'est tout des zones, là, on va dire, je vais vous parler de la vallée du Rhône, que je connais un peu mieux, mais c'est tout des zones où on ne sait pas quoi planter, en termes d'arboriculture, puisque l'abricot, bergeron, là, qui est beaucoup en place, ou d'autres sont condamnés à terme, et à cause de ces gelées, mais aussi et surtout parce qu'il ne fait plus assez froid. Il n'y a plus assez d'heures de froid par rapport à ces variétés-là, et donc il faudrait qu'on aille chercher des variétés qui sont moins demandeuses de froid, mais... Ces variétés moins demandeuses de froid, elles existent, mais si on les implante et qu'on a une année froide, parce qu'on est en fait, on est sur un climat de transition. On a des années qui sont très douces, mais on a encore des années qui peuvent être froides et des gelées tardives. Donc, on a un climat qui est un peu bousculé sur des extrêmes et qui rend très très compliqué la planification agricole dont on avait l'habitude.
Donc, qui rend très compliqué la planification agricole dont on avait l'habitude, ce qui veut dire qu'on peut pas avoir des solutions tranchées.
Alors on pourrait sans doute, mais aujourd'hui, déjà, il n'y a pas grand monde qui réfléchit à cette question, dans le sens où l'État n'est pas en train de vraiment dire, dans ce cas précis que je viens de nommer, on pourrait monter telle filière, on pourrait lancer la pistache, on pourrait renforcer une filière d'amandes, une filière de figues, une filière de grenades. Et donc ça, c'est laissé un peu à la libre appréciation des agriculteurs et du secteur privé. Sauf qu'une filière, ça met 10-15 ans à se structurer. Et qu'aujourd'hui, en fait, il faudrait qu'on soit déjà en train de structurer ces filières pour planter des choses qui, dans 10-15 ans, vont pouvoir pousser. Donc là, on est plutôt en train de prendre du retard. Et il faudrait justement, j'ai cité le mot de planification agricole, mais en fait, c'était un peu par... C'était pas le bon terme, parce qu'il n'y en a pas réellement de la planification agricole aujourd'hui, puisque c'est laissé à la libre appréciation des agriculteurs qui sont des entrepreneurs et qui, du coup, décident. Alors, des fois, il y a des contrats, des fois, il y a des commandes, etc. Il y a des acteurs de l'agro-industrie qui peuvent intégrer des filières, effectivement. Il y a des zones à hausser, donc dans ces zones-là, on va produire plutôt telle culture. Mais dans les zones, et elles sont nombreuses en France, où on voit que le climat va changer très vite dans les 30 prochaines années, du coup, il faut qu'on regarde qu'est-ce qui pousse plus au sud, souvent. Et qu'on commence à monter des filières en lien avec ça. Le vin de Bordeaux, aujourd'hui, les cépages qu'on trouve à Bordeaux, ils vont remonter dans l'Ouest, ils vont remonter en Angleterre. Et on parle de ça dans 30 ans, et tout va faire un peu comme ça. Et on ira mettre dans ces zones-là des cépages qui aujourd'hui poussent en Espagne, et le sud de l'Espagne arrêtera de faire du vin parce qu'il n'y aura plus les conditions requises.
Donc les paysages vont changer, les cultures vont changer, la vie des paysans va changer.
Ça va changer, et dans une échelle de temps qui est... incroyablement courte. Et donc ça, on peut pas s'imaginer ce que c'est parce qu'on l'a jamais vécu. Donc c'est un peu face à ça qu'on est bloqué. C'était par rapport à créer l'imaginaire de ce que ça va être, sachant qu'en fait, on n'a jamais vécu des changements aussi brutaux. Et je donne le parallèle dans le film. En fait, là aujourd'hui, il y a le plan d'adaptation au changement climatique qui nous parle, qui est sorti la semaine dernière, qui nous parle de comme si de rien n'était, on va vivre dans un monde à plus 4 degrés. Un monde à plus 4 degrés, c'est un truc qu'il faut vraiment absolument essayer d'éviter. Donc là, ce rapport fait comme si c'était un truc qui était presque acquis, donc ça interroge. Plus 4 degrés, 4 degrés, c'est ce qui nous sépare de la dernière ère glaciaire, il y a 21 000 ans, il y avait 4 km de glace au-dessus du nord de la France. Donc ça, c'est 4 degrés de différence. Donc en fait, on ne peut pas se rendre compte en fait, de ces écarts-là, et là, on parle de faire plus 4 degrés à l'échelle de 200 ans.
Comme si c'était admis ?
Comme si c'était... comme si on pouvait rien y faire déjà, ce qui n'est pas le cas, et comme si c'était quelque chose auquel on pouvait s'adapter. Mais on ne peut pas vraiment s'adapter à ça, parce que ça va déclencher de telles boucles de rétroaction dans le climat. On sait, en fait, les scientifiques, c'est pas la partie la plus gaie, et le film, ça ne pesantit pas forcément que là-dessus, mais donc du coup, pour avoir un peu lu là-dessus, il y a ce qu'ils appellent en anglais des tipping points, des points de bascule. Ces points de bascule, on sait qu'ils peuvent se déclencher à certains seuils, mais on ne sait pas où exactement. Et donc après, c'est l'inversion du Gulf Stream, c'est la chute d'écosystèmes comme l'écosystème de l'Amazonie ou d'autres qui peut commencer à décrocher. C'est le dégel du permafrost, donc tout le carbone qui est emprisonné aujourd'hui dans les sols, dans toute la bande au-dessus de, en Sibérie, notamment, qui commence à dégeler, donc ça a déjà commencé. Et donc là, après, on a des émissions massives, en fait, de gaz à effet de serre dans l'atmosphère, qui fait que ça continue, en fait, c'est l'emballement climatique ensuite. Voilà, ces choses qui sont décrites. Là, on est un petit peu au seuil de ces points de bascule aujourd'hui, sans doute.
Tout ça fait peur, Nathalie Coste. Ouais. Rassurez-moi, est-ce que votre film peut être aussi rassurant par certains côtés et par certaines initiatives des agriculteurs que, expliquez-moi, racontez-moi.
Alors, rassurant, certainement pas, parce que je suis pas là pour être rassurant. Je suis pas là non plus pour plomber l'ambiance. Donc moi, je montre les solutions qui existent sur le terrain et ce que les gens font pour aller dans le sens déjà d'une atténuation du dérèglement climatique. Donc ça veut dire aussi stocker du carbone dans les sols, etc. Mais c'est pas l'angle principal de mon film, effectivement, l'atténuation. Je parle plus vraiment de comment on s'adapte et comment on régénère les écosystèmes. Donc effectivement, les sols, comment est-ce qu'on stocke de l'eau dans les sols, comment est-ce qu'on recrée aussi de la biodiversité. Donc c'est des choses connues, hein, et depuis des centaines, des milliers d'années, hein, quelque part. Donc,
est-ce que les réponses sont simples? Parce que par rapport au stockage de l'eau, on a parlé beaucoup des méga-bassines.
Ouais. Les réponses sont simples, mais la mise en œuvre des réponses est complexe, et on vit dans un monde complexe. Et donc n'importe quel, on va dire, enjeu qu'on va isoler, isolément, il est simple, mais ce qui est complexe, c'est qu'il est pris dans un système très global aujourd'hui, et que donc c'est difficile, en fait, aujourd'hui, d'apporter des réponses globales, parce qu'on se heurte effectivement à la politique de Bruxelles, qui évolue pas vite, aux politiques, en fait, nationales, qui sont plombées par les lobbies très verrouillés, etc. Et donc, en fait, finalement, même si ça n'apporte pas la réponse à tout, et loin de là. Mais le film renvoie aussi à ce qu'on peut faire à l'échelon local. Alors, je ne dis pas à l'échelon individuel, parce que ça, c'est pas la croyance dans la somme des injonctions individuelles à changer. Non, c'est plutôt comment localement ou à échelle régionale ou locale, des élus, des agriculteurs, des industriels, des agriculteurs peuvent aussi apporter des solutions efficaces aux problèmes de résilience alimentaire. Donc, le film parle d'agriculture et d'alimentation. Et à des enjeux aussi d'adaptation au changement climatique, préservation de la ressource en eau, de la fertilité et aussi de la biodiversité.
Est-ce qu'en Drôme, il y a eu des expériences qui allaient dans ce sens?
En Drôme, et notamment dans le Val de Drôme, on expérimente plein de trucs. Voilà, donc le film montre un petit peu aussi certaines techniques un peu plus pionnières, comme par exemple l'hydrologie régénérative, qui se développe un peu partout en France, et qui consiste à dire, par exemple, plutôt que de stocker l'eau dans des retenues, ce qui peut parfois avoir un intérêt, hein, de stocker de l'eau dans des retenues, c'est pas forcément contre, c'est plutôt un « et ». Est-ce qu'on ne stockerait pas aussi l'eau dans des sols et dans les arbres? Et donc c'est comment on retravaille, comment on cultive l'eau, diraient les collègues là des bureaux d'études du Permalab notamment, qui travaillent là-dessus. Et donc du coup, c'est comment on repense le design, l'aménagement des parcelles agricoles à des grandes échelles, pour permettre à l'eau de rentrer dans les sols, de percoler, d'aller recharger les nappes, d'imbiber les sols, etc. Donc c'est une réflexion assez différente à ce qu'on a pu avoir jusqu'aujourd'hui, où en général on évacue l'eau au plus vite des territoires, avec des enjeux d'inondation. Ben là, c'est aussi dire comment est-ce qu'on va pouvoir faire aussi pour la retenir un peu plus longtemps.
Donc il faut avoir pour chaque élément de la nuance.
Ça me semble important, la nuance, pour analyser le monde. On peut pas aujourd'hui trouver des réponses à un système aussi complexe en 140 signes sur Twitter. Il faut rentrer dans la complexité. Et quand on rentre dans la complexité, ce que j'essaie de faire dans le film, on se rend compte que il n'y a pas d'idée simpliste qui fonctionne. Alors, des fois, les solutions pour autant peuvent être simples, mais les mettre en œuvre, en fait, reste complexe, parce que aussi on essaie de gagner notre vie dans ce monde-là. C'est pas juste on peut faire tout ce qui nous chante sans impératif économique autour. On vit dans un monde quand même où il y a un impératif économique. Et donc oui, de la nuance il en faut pour comprendre tout ça et arriver à articuler en fait des solutions qui fonctionnent à différentes échelles.
Et ces solutions que vous avez expérimentées en Drôme, que vous avez observées, elles sont extrapolables à votre avis?
Alors oui, elles sont à peu près toutes extrapolables. Après, le contexte agricole de la vallée de la Drôme est particulier, parce qu'on a un territoire qui est petit, qui est avec de petites structures agricoles qui sont assez diversifiées. Donc voilà, mais après moi je montre des exemples aussi de grandes cultures dans le film, etc. Tout est extrapolable. Après, il n'y a pas de recette qui marche partout. Donc, il faut évidemment adapter à chaque terrain, à chaque parcelle, même, j'ai envie de dire. Et c'est un peu un des messages du film autour de la transition et de l'agroécologie. C'est de dire, c'est aussi comment on change de rapport à l'agriculture, comment on sort d'une agriculture qui oriente uniquement orientée vers le productivisme. Et donc c'est bien d'un côté de produire, il faut produire, parce qu'il y a des gens à nourrir, etc. On est 7 milliards et compagnie. Mais en même temps, si c'est notre seule boussole de produire beaucoup, ok, mais on détruit tout autour. Donc aujourd'hui, il faut revenir, trouver comment arriver à continuer à produire, quand même, et arriver à prendre soin des humains, des sols, des nappes phréatiques et de la biodiversité. Et c'est ça le tournant qu'on doit réussir à faire là, dans ce siècle. C'est comment on recommence à prendre soin et à reprendre conscience un petit peu que le productivisme, la productivité ne peut pas être la seule boussole pour déterminer tous nos faits et gestes, et en tout cas tout le système agroalimentaire.
Ça peut être le mot de la fin, Nathanaël. Donc nous, on va regarder votre film ce soir. Donc, nous sommes à Bois, mais ce film il sera projeté ailleurs, et je ne peux que conseiller donc aux auditeurs d'aller aux divers endroits où Nathanaël Coste se produit. Est-ce que vous avez un dernier mot à rajouter?
Ouais, bien sûr. Il faut vous diffuser le film autant que vous voulez. Il est sur le site internet lathéorieduboxeur.fr. Et on a créé un guide d'animation qui permet à n'importe qui d'animer après le film. Et on forme des gens actuellement pour aller animer après le film. Le film est sorti au cinéma, il se diffuse en national, un peu de partout. On encourage tout type de projection, y compris chez les scolaires, en entreprise. Donc n'hésitez pas. Et le film est un bel outil pour localement en fait se réapproprier ces sujets d'agriculture, d'alimentation, et de se questionner sur un peu la réalité du changement climatique et comment on va faire avec ça.
Merci Nathanaël.
Merci à toi.
Notre émission est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine émission. À très bientôt, amis auditeurs.